Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Bienvenue sur Europe 1, à l'heure où l'antenne est à vous. Je suis ravie de vous retrouver en ce premier dimanche du mois de décembre. Nous avons 2 heures devant nous pour échanger. Vous avez 2 heures pour venir prendre la parole et aborder tous les sujets qui vous préoccupent, parler de vous, nous faire des confidences sur votre vie. Pour nous rejoindre, il vous suffit d'appeler le standard Europe 1 au 3921. La parole est une liberté, mais avez-vous conscience que c'est aussi une vibration, un son, une fréquence qui touche notre cerveau exactement comme la musique peut le faire? Le son est partout depuis le ventre de notre mère. Les fréquences, les vibrations qui nous accompagnent et qui sont transmises à notre cerveau par des influx nerveux en permanence forment comme une carte d'identité sonore qui nous suit tout au long de notre vie. Prendre conscience des sons qui nous entourent, des voix qui nous plaisent ou pas, des musiques qui peuvent influencer notre humeur, voilà un travail très intéressant. D'ailleurs, si vous connaissez les conférences TEDx qu'on trouve sur Internet, je vous invite à rechercher celle de Michel Gauthier sur la puissance cachée de la musique et ses pouvoirs. C'est vraiment très intéressant. Et si vous ne connaissez pas encore ces conférences, tapez TEDx, T-E-D, plus loin X, et laissez-vous guider par les nombreux thèmes proposés qui sont souvent vraiment intéressants. Donc, si vous voulez prendre la parole, faire entendre votre voix ce soir, appelez-moi au 3921. Cindy et Nicolas sont prêts à vous accueillir et vous guider jusqu'à moi. Pour participer par SMS, vous connaissez le principe, 73921, suivi du mot nuit et de votre message. À la réalisation ce soir, celui qui parle avec ses mains sur la console, c'est Pierre-Yves. Alors, si tout le monde est prêt, la libre antenne, ça commence maintenant.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Et mon premier appel ce soir est l'appel de Daphné. Bonsoir à vous Daphné.
Bonsoir Sabine.
Soyez la bienvenue sur la libre antenne.
Merci beaucoup. Je suis ravie de passer un petit moment avec vous et je voulais vraiment vous remercier pour votre émission, la qualité des échanges et surtout la bienveillance que je ressens à chaque fois dans toutes vos interventions et qui attire la bienveillance des auditeurs. Donc,
merci
beaucoup de nous offrir ça.
Merci de me le dire, ça me touche beaucoup.
Ouais. J'ai écouté, Sabine, dernièrement en podcast, l'intervention d'Ambre. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle.
Une jeune femme qui n'avait plus de nouvelles de son copain.
Exactement.
Oui. Qui se murait dans un silence total et qui elle n'arrivait pas à lâcher l'affaire, en fait.
Exactement.
Oui.
Et je me suis... je me suis pas reconnue parce que je n'ai pas tout à fait le même âge que Ambre, mais j'ai vécu une histoire comme ça. Et je voulais vous la raconter et surtout témoigner après de mon parcours de reconstruction.
D'accord, oui.
J'ai beaucoup aimé les questions que vous avez posées à Ambre. Et voilà, je voulais témoigner de mon propre parcours. Donc moi, j'ai vécu 20 ans avec un homme qui se murait dans le silence très régulièrement.
Mais comment ça a commencé, cette histoire? C'était votre premier amour?
C'était mon premier amour.
Ah, là aussi, hein.
C'était mon premier amour et moi je vivais dans une famille très catholique dans laquelle le mariage était quelque chose de très important et je l'ai compris après, mais j'étais un peu poussée dans les bras de cet homme parce que il fallait que je me marie vite quoi. J'avais 20 ans et chez moi les filles se marient plutôt à 18-19 ans et 20 ans je commençais à avoir un peu la pression familiale pour me marier. Donc on s'est rencontrés sur le plan de nos études et de sa profession et il avait exactement le même écart d'âge entre lui et moi que l'écart d'âge qu'il y avait entre Ambre et son ami.
Alors rappelez-moi, parce que ça je n'ai pas mémorisé.
7 ans.
7 ans, oui,
7 ans d'écart.
D'accord.
Voilà, 7 ans d'écart. Et on s'est assez vite mariés. Moi je me suis retrouvée assez vite mère de famille et... je me suis trouvée du jour au lendemain, après avoir changé de région, face à un homme qui s'est muré dans le silence. Et je me reconnaissais tout à fait dans ce que Ambre disait. « Oh, mais le pauvre, il est blessé. Oh, mais le pauvre, il va bien finir par me parler. Il va bien finir par revenir. Il va bien... »
C'est ma faute, c'est ma très grande faute. Oui.
Exactement, c'est à cause de moi, mais moi je vais changer, et puis moi je vais trouver la façon de faire sortir de son silence. Ça a duré 20 ans, il n'est jamais sorti sans silence.
20 ans.
20 ans, alors il y a eu un événement qui a fait que je pense que ça a duré beaucoup plus longtemps que ce que ça aurait dû, entre guillemets, durer pour moi. C'est qu'on a perdu notre troisième enfant, qui est décédé subitement. Et cet enfant, il est décédé juste au moment où moi, je commençais à me réveiller et à me dire, faut que je parte. Mais j'ai pas réussi à partir à ce moment-là parce que j'étais trop fragile.
Mais oui, bien sûr, je comprends.
Ça a été assez dévastateur, ce décès de ce petit garçon qui était un bébé, en fait. Hein. Et du coup... J'ai eu besoin de recroire au fait qu'on allait pouvoir refonder une famille.
Et vous aviez besoin évidemment d'un socle à ce moment-là.
Et j'avais besoin d'un socle. Et donc, on a eu deux autres enfants. Et donc, du coup, 10 ans après le décès de ce petit garçon, avec deux enfants petits et deux enfants plus grands, adolescents, eh bien, je suis partie. Et je l'ai quitté du jour au lendemain parce que je sentais que de toute façon, c'était pas la peine d'expliquer. J'aurais un mur une nouvelle fois.
Quel était le déclic pour vous à ce moment-là, alors ?
Ben, le déclic pour moi, ça a été de me sentir, moi, assez solide par rapport au décès de mon fils, d'avoir assez récupéré par rapport au décès de mon fils, d'avoir à ce moment-là une période professionnelle très favorable où je me sentais très bien dans mon travail et très bien entourée dans mon travail. Et là, je me suis dit, je crois que j'ai lu un livre aussi qui s'appelait « Maintenant ou jamais », qui était sur la crise de la quarantaine. Mmh. Et je me suis dit, c'est maintenant.
Oui.
C'est maintenant.
Vous êtes sentie assez forte pour larguer les amarres.
Exactement, je me suis sentie assez forte pour affronter. Et heureusement que je me suis sentie assez forte parce que la séparation a été extrêmement difficile. Parce que, j'allais dire évidemment, je ne sais pas si c'est aussi évident que ça. Ça l'a été pour moi, mais je ne sais pas si c'était aussi évident que ça quand on est extérieur à l'histoire. Mais il n'a jamais voulu me laisser partir.
Et comment avez-vous fait matériellement ? C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous avez pris vos clics et vos claques,
oui.
et vous n'étiez plus là quand il est rentré, c'est ça ?
Non, pas tout à fait quand même. Pas tout à fait. J'ai cherché un appartement. Je voulais trouver un appartement dans le même quartier pour que mes enfants ne changent pas d'école.
En cachette ?
Et en cachette.
Oui.
J'ai trouvé cet appartement.
Mmh.
Alors j'ai eu la chance, moi, comme je travaillais depuis très longtemps, d'avoir mis beaucoup d'argent de côté.
D'accord, donc c'était une liberté.
Qui était
ça.
À moi,
oui.
Qui était à moi. Voilà, et ça, il ne le savait pas. Et donc, quand j'ai trouvé cet appartement, il était dans un état épouvantable. J'ai appelé l'entrepreneur qui avait fait des travaux chez nous et je lui ai dit, j'ai besoin que vous me refassiez cet appartement, mais en secret, est-ce que je peux vous faire confiance? Et il m'a dit oui. Et c'est le même entrepreneur qui faisait des travaux dans la maison dans laquelle je vivais avec mon mari et mes enfants, qui a pendant ce temps-là, avec une autre équipe, refait mon appartement.
Vous avez pris un risque en faisant ça.
J'ai pris un risque énorme, mais ça a été quelqu'un de très soutenant, inconsciemment, ce monsieur, ce qui après m'a aidée dans toutes mes galères. Et un jour, j'ai dit à mon mari, écoute, je m'en vais, et puis je tiens à ce qu'on dise aux enfants que... on se sépare tous les deux et que ce n'est pas moi qui lâche le navire parce que toi, tu m'as lâché depuis tellement longtemps que maintenant, tu fais face à ta responsabilité.
Quel âge avaient les enfants à ce moment-là ?
Alors, mes deux aînés avaient 18 et 16 ans.
Oui.
Et les petits, 8 et 4.
Ah oui, petits encore, oui.
Oui, petits, les petits. Hein.
Et là, comment il réagit ?
Ça a été un peu compliqué, mais il n'a pas osé me dire non. Donc,
il n'a pas été violent avec vous ?
Non. Par contre, il n'y a jamais eu de violence physique. Moi, la violence, elle a été psychologique.
Ouais.
Jamais physique, heureusement. Sinon, je pense que je serais partie beaucoup plus vite.
Mais elle impacte aussi énormément, la violence psychologique.
Ça a été très lourd. Ça a été très, très lourd. Très, très lourd. Et je ne sais pas comment je ne me suis pas effondrée, en fait. parce que quand vous avez quelqu'un qui rentre le soir à la maison, qui ne dit pas un mot, qui allume la télévision, qui impose le silence à tout le monde parce que lui, il veut regarder la télévision, écouter le journal, écouter le film, et que vous, vous êtes la mère de famille, que vous avez préparé le dîner en vous réjouissant de partager le dîner avec votre mari et vos enfants, et que vous passez le dîner à faire taire tout le monde pour qu'on puisse regarder le journal, enfin pour que lui puisse regarder le journal, et que ça se reproduit tous les jours.
Vous en parliez avec vos deux grands à ce moment-là ? Parce que des ados, quand même, à cet âge-là, ils peuvent réagir à ce genre de comportement.
Alors non, j'ai pas trouvé la parole pour en parler avec mes ados. Par contre, j'ai prévenu mes enfants que la situation avec leur père n'allait pas et qu'il y en a un qui m'a dit « Est-ce que vous allez divorcer ?» J'ai dit « Oui, c'est possible. »
Et comment ils l'ont pris, au moins les grands ?
Alors les grands, très très mal. Ah. Figurez-vous, ouais, les grands l'ont très mal pris parce que en fait, j'ai cru bien faire en disant que j'emmenais les petits avec moi parce que les petits, leur père était absolument incapable de s'en occuper. Et j'ai laissé le choix à mes deux grandes, à mes deux filles aînées, de venir avec moi ou pas. Et en fait, elles ont décidé, comme elles me l'ont dit des années après, non pas de rester avec leur père, mais de rester dans leur maison.
Ah.
Et elles sont quand même restées aussi pour soutenir leur père, je pense inconsciemment, parce que leur père a pas mal sombré, a pas mal joué, enfin, tombé dans une... Ouais, bien évidemment, et puis avec une forme de dépression qui était quand même sûrement là déjà depuis très très longtemps, mais qui s'est un petit peu aggravée. Et ça a été très rude pour mes filles, elles ont joué le rôle de soutien de leur père, jusqu'au jour où n'en pouvant plus, elles sont toutes les deux parties dans le cadre de leurs études, l'une aux États-Unis, l'autre en Asie.
Oui, oui.
Le plus loin possible.
Et c'est souvent comme ça que ça se termine.
Oui, ça a été leur plan je salue.
Mais pendant cette période-là, est-ce que vous aviez de bons contacts avec elles ?
Très bon, tout le temps, parce que je me suis dit, parce que je n'aimais pas du tout la maman que j'étais quand j'ai vécu en famille, parce que leur père m'imposait un certain comportement qui n'était pas celui que je voulais avoir avec mes enfants.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire, ce n'était pas vous, c'était ce qu'on vous obligeait à être.
C'était pas moi, exactement. Donc du coup, quand on s'est séparés, moi je me suis dit, c'est une opportunité extraordinaire pour moi de nouer avec mes enfants la relation que je veux avoir avec eux.
De leur montrer qui vous êtes vraiment.
Et leur montrer qui je suis vraiment. Et donc quand mes filles m'ont dit, on reste à la maison, on reste chez notre père, j'ai dit, je vous ai laissé le choix. Très bien, vous exercez votre choix. Quoi qu'il se passe, mes chéris, je serai toujours là, quoi qu'il se passe. Et je les ai récupérés une fois l'une en larmes parce que trop dur à supporter, une autre fois une autre parce que trop dur à supporter. Mais il y en a quand même une des deux qui n'a jamais voulu venir dormir dans mon appartement. Jamais.
C'était peut-être trop difficile à gérer pour elle à cet âge-là.
Je pense, c'était trop dur pour elle, mais j'ai respecté. J'ai dit, écoute, il y a un lit pour toi. Le jour où tu veux venir, tu viens.
Elle n'est jamais venue. Oui, mais elle savait. C'était déjà quelque
chose. Elle savait. Et puis, elles ont vécu toutes les deux. Alors, l'une un an, l'autre 3 ans à l'étranger. Bon, bref. Et puis, quand elles sont revenues, ça a été l'occasion de bien reposer les bases des choses. Et je leur ai vraiment, à ce moment-là, expliqué ce que j'avais vécu. Je leur ai expliqué aussi que pas loin de 5 ans après mon divorce, ma séparation, 5 ans après ma séparation, j'étais toujours pas divorcée parce que lui ne voulait pas, que je recevais toujours des mails que je considérais comme une forme de harcèlement.
C'est ce que j'allais vous demander, vous n'en parlez pas beaucoup de lui pendant cette période-là, mais il n'a pas lâché ça si facilement, j'imagine.
Ah non, il n'a pas lâché
facilement. Parce qu'il découvre que vous avez un nouvel appartement, que vous embarquez les deux petites. Vu le profil que vous me décrivez, ça m'étonnerait que ça soit passé dans du velours.
Ah non, c'est pas passé dans du velours. Je peux vous assurer que ça a été très rude pour lui.
Qu'est-ce qu'il vous a fait alors ?
Il a cherché à maintenir en permanence un contact. Déjà, excusez-moi, je vais être un peu trivial, mais il a fait la gueule.
Ça l'embête que lui.
Non. Ça embête quand même tout le monde. Ça embête quand même tout le monde. Non, parce que franchement, chaque fois que je le voyais, on était quand même obligés de se voir quand même pas mal avec les enfants, parce que moi, j'ai demandé assez vite, alors pas au tout début parce que les enfants étaient trop petits, mais dès que mon plus jeune a eu 7 ans, 8 ans, j'ai demandé une garde partagée. parce que j'ai estimé que c'était trop facile pour lui, que moi j'avais donné beaucoup beaucoup de mon temps pour élever mes enfants et éduquer mes enfants, et que le temps était venu pour qu'il prenne sa responsabilité de parent.
Il était OK avec donc, ça?
Ben, j'ai mis 2 ans à l'obtenir, mais j'ai fini par l'obtenir. Ah. Avec patience, en lui expliquant que c'était dans son intérêt à lui. Et du coup, bah, il cherchait tout le temps le contact avec moi, tout le temps, tout le temps. Il y avait toujours une occasion pour venir au contact de moi, etc. Me raconter à ce moment-là ses états d'âme. Donc là, moi, je lui ai dit, attends, on a partagé 20 ans de vie commune, tu n'as jamais partagé tes états d'âme avec moi.
Tu n'as jamais ouvert la bouche pendant 20 ans.
Voilà,
c'est ça.
Exactement. Ce n'est pas maintenant qu'on vient de se séparer, qu'on est séparés maintenant depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, que tu vas me raconter tes histoires. Moi, je ne veux pas m'entendre parler. Et puis, tu te plains, tu es une victime, mais est-ce que tu penses que ça a été facile pour moi?
Et qu'est-ce qu'il répond à ce moment-là?
Ben, il ne répond rien. Mmh. Il se remue dans son silence. Et il ne répond rien. Bon, ça a été quand même très compliqué parce qu'au début, il est resté dans la maison. À un moment, moi, j'ai dit, mais j'ai besoin d'argent, donc je veux qu'on vende la maison. Alors, vendre la maison, ça a été très, très compliqué de vendre la maison alors qu'on n'était pas divorcés. Bon, bref, on a fini par réussir à divorcer. Et puis, ben, ce dont je voulais parler aussi, c'est ce parcours de reconstruction dont j'ai découvert l'ampleur quelques années après m'être séparée du père de mes enfants, parce que j'ai commencé à ce moment-là un travail thérapeutique. Mmh. Alors déjà, je voulais témoigner du fait que j'avais croisé un nombre important de thérapeutes, parce que j'ai commencé à travailler avec un thérapeute, et puis à un moment, je trouvais qu'on tournait dans le vide, ça n'avançait plus, donc j'ai changé, puis j'ai retrouvé un peu le même scénario jusqu'à il y a 5 ans, où là, j'ai vraiment trouvé le bon thérapeute. Mais j'ai un peu eu du mal à trouver le bon thérapeute.
Mais comme quoi, vous voyez, c'est ça corrobore souvent ce que j'explique, c'est que quand on n'a pas le bon, il faut s'autoriser à chercher et prendre le temps.
Oui.
Et il n'y a aucune honte à changer, à dire ça ne me convient pas, jusqu'à ce qu'on ait la bonne personne.
Oui.
Souvent, je parle avec des gens qui n'osent pas, comme si c'était une obligation de garder la thérapeute qu'on a.
Non, c'est très important de se sentir bien avec son thérapeute et de s'autoriser à partir quand on sent que ça ne sert plus à rien.
Évidemment,
donc moi, j'ai quitté 3 thérapeutes avant de trouver un 4e thérapeute avec qui je suis restée 5 ans. Mmh. Et la dernière séance que j'ai faite avec lui la semaine dernière, on s'est dit qu'on clôturait la thérapie. Donc, on va la clôturer dans 15 jours, juste avant les fêtes de Noël. Et voilà, je suis ravie de tourner cette page-là. Voilà, parce que ça a été une, voire 2 séances par semaine pendant 5 ans. Plus tout le travail que j'avais fait avant. Mais vous voyez, avec la réflexion, je me dis, au moment où je tournais dans le vide avec ces thérapeutes, peut-être que c'était moi qui bloquais sans me rendre compte aussi.
Je crois que ça a été un travail non seulement sur votre couple, mais pour le coup, sur toute votre vie et sur vous-même, bien plus profond.
Ah, complètement. Voilà. Mais alors, complètement. Ça a été un travail vraiment. À un moment, je ne savais plus qui j'étais dans ce travail de thérapie. Et je me disais, mais finalement, alors, qui je suis, qu'est-ce que je veux. Enfin, ça a été une vraie redéfinition de mon être profond.
Il y a souvent 5 étapes, d'ailleurs, quand on traverse c'est ce que vous avez traversé. Souvent, le départ, c'est ce qu'on appelle le temps de la souffrance. C'est le temps où on va chez le thérapeute et on pleure sans très bien comprendre ce qu'il y a.
Oui.
Après, il y a le temps de la peur et du chaos. On ne sait plus trop où on est. C'est ce que vous venez de me dire. Je ne savais plus qui j'étais ni où j'allais.
Mmh.
Il y a le temps
mmh.
des bilans. Il y a le temps où on se pose. On arrive à mettre des mots sur les choses et à comprendre beaucoup mieux. Il arrive un temps où on tourne la page et puis il arrive surtout après ce qu'on appelle le temps des nouveaux bonheurs.
Mmh.
Et ça, c'est chouette quand on arrive au temps des nouveaux bonheurs.
Mais écoutez, j'espère que j'y arrive.
Je pense que vous êtes juste devant cette dernière porte, là, j'ai l'impression.
Vous me donnez de la joie.
Et oui.
Parce que ça a été un chemin quand même vraiment, vraiment, vraiment difficile.
Mais qu'est-ce que vous avez compris sur vous? Parce que c'est ça qui est intéressant dans
cette histoire-là. Alors, ce que j'ai compris sur moi, c'est que j'ai souffert enfant du syndrome d'abandon.
Mmh.
Voilà, ça très clairement, avec un père extrêmement absent. Une mère qui le survalorisait, qui était extrêmement amoureuse de lui, un couple fusionnel. J'avais en face de moi un couple fusionnel. Et moi, je suis la dernière de la famille. J'ai quand même mis en évidence que quelque part, je pense que je n'étais pas désirée.
Donc, il n'y avait pas de place pour vous.
et je n'avais pas de place. Et mes frères et sœurs étaient extrêmement brillants et moi, j'étais quantité négligeable.
Et la blessure d'abandon fait que toute sa vie, tant qu'on ne l'a pas soignée, on est prêt à tout pour être aimé, y compris accepter l'inacceptable. Parce qu'on a tellement besoin de colmater cette blessure-là qu'on se met des œillères et qu'on trouve des excuses là où il n'y en a pas. À condition qu'on nous fasse semblant d'au moins nous aimer, qu'au moins les apparences soient saufs, on va dire.
Oui. Et ça a été très compliqué pour moi de comprendre qu'est-ce que ça veut dire s'aimer soi-même inconditionnellement.
Mais oui. Qui est la condition de base pour toute relation saine.
Oui. Parce que mon psychologue m'a bien aidée à mettre en évidence que quand j'étais enfant, j'ai vécu un amour conditionnel. C'est-à-dire que j'ai eu une éducation réflexe. Exactement. Je devais avoir tel comportement à tel moment, etc. J'ai parfaitement intégré tous les codes et j'ai parfaitement respecté ce qu'on m'a demandé de faire.
Pourquoi désespérément à chercher l'amour ?
Voilà, c'est ça. Et c'était à ces conditions-là que j'étais aimée, sinon je n'étais pas aimée. Donc l'amour inconditionnel, c'est quelque chose que je ne connais pas. Et en fait, je me suis remis dans le même schéma un peu avec le père de mes enfants, qui a été « je t'aime à condition que tu me laisses dans mon silence ».
Je me tais pour te laisser écouter les infos, parce que comme ça, peut-être tu m'aimeras un petit peu. Je ne fais pas de bruit, comme ça je vais te plaire, etc. etc.
Exactement.
Donc ça n'est jamais être aimé pour qui on aime, mais être aimé pour ce qu'on fait.
Exactement.
Et ça, ce n'est pas de l'amour.
Exactement. Mais j'ai eu beaucoup de mal. Et vous voyez, c'est drôle parce que quand j'entendais Ambre, je me revoyais, moi, il y a 10 ans. Et en fait, il y a quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire chez Ambre, c'est qu'elle se pose ces questions à 23 ans.
C'est ça, c'est ce que j'ai remarqué aussi. Elle a une maturité étonnante.
Moi, je me suis posé ces questions à 40 ans, quoi. Donc, voilà, si elle nous écoute, je voulais lui dire que j'ai trouvé sa démarche super et que je lui souhaite le chemin que je connais malgré la difficulté du chemin. C'est un très beau chemin, c'est un chemin très difficile, il faut être courageux, il faut accepter de pleurer, comme vous dites.
Il y a un temps il faut accepter chaque étape.
De ne pas comprendre à certains moments et puis de laisser faire parce qu'en lâchant prise, des fois on comprend. Paf, il y a des déclics, on comprend des choses tout d'un coup sur lesquelles on a bloqué pendant 3-4 séances. Tout d'un coup, ça se débloque, on ne sait pas pourquoi. Et puis, on arrive à se reconstruire et à espérer, comme vous dites, de nouveaux bonheurs, quoi. Alors, le cadeau caché.
Justement, à propos de nouveaux bonheurs, est-ce qu'il y a eu des choses ? Est-ce qu'il y a des espoirs ? Est-ce qu'il y a des...
Alors, j'ai eu des rencontres pendant ces 10 ans, évidemment, mais je retombais toujours un peu sur les mêmes schémas.
Et vous n'étiez pas prête encore.
Et ma dernière histoire date d'il y a 2 ans, et je me suis dit stop, quoi, ça suffit.
Au moins, vous avez compris tout de suite, ça c'est bien.
Oui, et puis je me suis dit, Sabine aussi, et j'entends beaucoup ça autour de moi, et c'est normal parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de femmes seules aujourd'hui. Alors, il y a sûrement beaucoup d'hommes seuls, mais je ne sais pas bien où ils sont, pour être très transparente. Mais moi, je ne les croise pas trop dans ma vie, tous ces hommes seuls. Mais je croise beaucoup de femmes seules. Et alors, il y a ce réflexe d'Internet. Et franchement, les femmes sont pas bien gâtées sur ces sites Internet, croyez-en mon expérience. Ah. Et franchement, moi j'ai comparé parce que j'ai quand même quelques amis hommes qui sont célibataires et j'ai comparé le choix qui est offert aux hommes, au choix qui est offert aux femmes. Franchement, je peux vous dire que autant les hommes ont tous les choix qu'ils veulent et qu'il y a beaucoup de concurrence pour les femmes sur ces sites-là et que toutes les femmes qui sont sur les sites sont plutôt des femmes jolies, avec des jolies photos, avec des profils intéressants, etc. Des messages intéressants. Autant, ce n'est pas le cas des hommes, quand même, franchement. Alors, du coup, pour moi, je me suis dit que j'arrêtais et que j'attendais. Je faisais confiance et que j'attendais.
Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, attendre, c'est bien. Se mettre en action, c'est bien aussi. Peut-être en faisant une activité pour rencontrer un peu des gens différents de votre cadre habituel, vous voyez.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand je dis attendre, c'est ne pas aller sur un site Internet.
D'accord.
C'est pas tout à fait la même chose.
Mais pas rester dans votre salon en espérant qu'il tombe de l'ascenseur.
Non, c'est pas mon style. Non,
ça n'arrive que dans les comédies romantiques, ça.
J'ai plein d'activités, je fais beaucoup de choses, je rencontre beaucoup de monde, voilà, je sors beaucoup de chez moi, enfin voilà. Donc, j'ai une vie sociale assez développée.
Mais là, vos enfants, les petits, ont quel âge, les deux derniers ?
Alors, les petits ont maintenant 17 le dernier et 22 l'avant-dernier.
Et ils sont en alternance un peu aussi chez leur père et chez vous, ou ils sont autonomes ?
Alors, ils sont un peu une fois chez l'un, une fois chez l'autre. C'est un peu l'auberge espagnole. Hein. On n'habite pas très loin l'un de l'autre, donc les enfants naviguent assez facilement d'une situation à une autre, d'une maison à une autre, avec de mon côté énormément de souplesse. Moi, je veux dire, mes enfants, écoutez, vous êtes grands, faites ce que vous voulez. Il y a ce qu'il faut dans le frigidaire. Si je suis pas là, vous vous débrouillez.
Oui, donc vous êtes aussi plus libre aussi grâce à ça.
Ah ben moi je suis très libre, je suis très libre. Puis bon, ça y est, maintenant mon dernier est étudiant, donc ça y est, j'ai passé le cap du lycée, tout ça, et ça c'est bien.
Mais vous avez survécu à comment ça s'appelle, les inscriptions par internet, là, le nom m'échappe.
À Parcoursup. Oui, c'est pas triste, Parcoursup, mais oui, on a survécu à ça.
C'est épique.
Mais mes enfants sont très... ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai réussi à nouer une relation très, très saine avec mes enfants, tant avec le groupe de mes quatre enfants, parce que parfois, quand je les ai tous les quatre, ils forment un peu un groupe avec moi. Mmh. Et du coup, il y a une relation de groupe comme ça qui se passe entre moi et eux. Et aussi, de manière très individuelle avec eux, j'essaye de passer régulièrement du temps avec chacun d'entre eux dans des situations un peu différentes. Et j'ai une relation d'excellente qualité avec mes enfants.
Ça, c'est réconfortant.
Et ça fait du bien parce que j'y ai passé beaucoup d'énergie.
Ouais. Vous avez fait du bon boulot. Hein.
Et je savais pas qui j'étais, qui était Daphné, mais je savais très bien qui était Daphné la mère. Ça, je n'avais aucun doute là-dessus. Et ça m'a quand même pas mal tenue debout. Mais c'est vrai que maintenant, vous avez raison, il faut que je pense à ma vie, à moi, et c'est ce que j'essaye de faire par toutes ces sorties, par je fais beaucoup de théâtre, je fais beaucoup d'ateliers de théâtre, d'ateliers différents. C'est super, vraiment, j'invite tout le monde à en faire parce que ça permet de se découvrir aussi, et je trouve que c'est très complémentaire de la thérapie et des théâtres.
Tout à fait.
Pour aller justement explorer des champs. Exactement. Qu'on n'arrive pas forcément à explorer dans une vie normale. Le théâtre, quand on est bien accompagné, parce qu'il y a comme partout des bons et des mauvais profs, mais avec un bon prof de théâtre, on peut faire des choses assez extraordinaires.
Et c'est un excellent moyen d'arrêter de se juger, de juger les autres aussi.
Ah oui.
C'est aussi l'école de la tolérance.
Sûr. Ah ça, c'est sûr. C'est sûr.
Et vos enfants, les quatre, pardon, mais ils ont quelle relation avec leur papa, là, aujourd'hui ? Est-ce qu'eux aussi, c'est sain, ou vous trouvez que de ce côté-là, c'est pas terrible ?
Alors, écoutez, ma fille aînée, qui a 30 ans, a beaucoup de mal à rencontrer un garçon. Et donc, elle a démarré cette année une thérapie.
Oui.
Ma deuxième fille a rencontré un garçon très très mignon, très sympa, il y a 2 ans à peu près. Ça fait 2 ans qu'ils sont en couple et ça a l'air de très bien se passer pour elle. Et pour les plus jeunes, c'est très complexe, c'est très compliqué. Alors, ma troisième fille m'a dit il y a quelques, je dirais 2 ans, 3 ans. Elle m'a dit un jour par texto qu'elle était homosexuelle. Ce que je savais.
Mais
elle m'a dit ça par texto.
Une mère, c'est ça, oui.
Voilà.
Par texto, oui, c'est curieux, ça.
Ouais, c'est curieux. Hein. Elle m'a dit ça par texto et je l'ai tout de suite appelée en lui disant « Viens, on va boire un café. » On s'est retrouvés dans un café. On a discuté un petit peu toutes les deux. Ça nous a donné une proximité. C'était très, très sympa, ce moment. Et qu'est-ce que j'ai été heureuse. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai bien fait de quitter mon ex-mari. Parce que j'ai pu accueillir ça comme je voulais le faire, parce que je savais que ça arriverait. Et je l'ai accueilli avec beaucoup de sérénité, et en disant, ma fille, bah, écoute, c'est comme ça, hein, c'est ton chemin, et je suis là pour toi, et je t'accompagnerai sur ce chemin.
Je
pense que ça fait 3 ans qu'elle me l'a dit. Je crois qu'elle ne l'a toujours pas dit à son père.
Oui, ça en dit long sur ses relations avec lui, effectivement.
Ouais. Et mon fils, le dernier, est un garçon extrêmement doux, extrêmement. Il n'a pas de chance parce qu'élevé avec une maman un peu féministe et trois filles très féministes. C'est un petit peu. Voilà, je parle beaucoup avec lui de sa relation aux filles parce qu'il me dit, mais tu sais, maman, ça fait peur des fois. Et là, le jour où il m'a dit ça, j'ai éclaté de rire et je lui ai dit, mais non, mais tu vas voir, il y a plein de choses. Hein. Il y a plein de choses très simples, en fait. Il suffit d'observer, il suffit de regarder. Voilà. Et c'est drôle parce qu'on parle beaucoup de ça tous les deux. Mais lui, certaines fois, il débarque chez moi et il me dit, j'en peux plus, maman. Il vient chez son père et il me dit, j'en peux plus.
Est-ce qu'il y a quelqu'un chez son père ? Est-ce qu'il a une femme dans sa vie ?
Non, non, non. Non, non. Ah ouais. On a, ni lui ni moi n'avons pour l'instant... Moi, je pense que moi, j'ai rencontré plus de personnes que lui. Parce que lui, il est très solitaire, hein, du coup, très très solitaire, très renfermé sur lui-même.
Mais je ne pense pas, d'après ce que vous me dites, qu'il est sur un chemin de reconstruction thérapeutique, lui.
Pas du tout.
Non, c'est ça.
Pas
donc...
du tout.
Oui.
Il ne voit pas du tout
ce que problème, ça peut...
Oui, ouais, c'est ça, il ne comprend pas. Il ne comprend pas du tout. Il ne comprend pas du tout.
C'est pour ça que j'aurais pensé qu'il se serait assez rapidement raccroché à une autre femme, mais ce n'est pas le cas, visiblement.
Moi, je pensais ça aussi. Je pensais qu'il
On aurait
allait...
pu imaginer ça, oui, avec lui.
Je pensais qu'il allait rencontrer une femme... par exemple, je m'étais dit, une femme qui n'a pas d'enfant, une femme un peu mûre qui n'a pas d'enfant, et qui va le prendre pour son bébé.
Le maître materné, un peu, oui.
Exactement. Et non, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Mais voilà, bon, bah écoutez, voilà, moi je voulais vous témoigner de ça en tout cas, et surtout témoigner aussi à Ambre et puis à tous les autres du bonheur que c'est une fois qu'on a terminé ce chemin, du bonheur que c'est de se dire que enfin je me suis trouvée, enfin je sais qui je suis, enfin je sais ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Dans votre introduction, vous parlez de la voix et vous disiez, ah ben, y a des voix qu'on aime, des voix qu'on n'aime pas. Ben voilà, moi j'ai appris. Qu'est-ce que j'aime chez un homme, qu'est-ce que j'aime chez une personne, qu'est-ce que je n'aime pas aussi. Parce que comme on m'a beaucoup appris à m'adapter, j'étais en suradaptation tout le temps, donc moi j'aimais tout, hein.
Oui.
Il y a 20 ans, tout était parfait, formidable, j'aimais tout, je m'adaptais à tout. Et ben maintenant, je suis capable de dire à un homme, bah, écoute, la façon dont tu viens de me parler ne me convient pas. Et je te demande de ne pas me parler de cette façon-là.
Et oui, vous avez fait ce qu'on appelle un apprentissage, et j'aime bien couper ce mot en deux.
C'est exactement ça.
Et maintenant, vous êtes devant la porte des nouveaux bonheurs, et ça, c'est vraiment chouette.
Voilà, et ben écoutez, je les appelle, hein, donc j'espère qu'ils...
Quand vous aurez vu ce qu'il y a derrière la porte, vous me rappellerez pour me raconter.
Avec plaisir. Avec plaisir.
Avec grand plaisir aussi, Daphné. Mais merci beaucoup
voilà.
De ce témoignage, en tout cas, ça fait du bien.
Ayez confiance, en tout cas, pour tous... dans la capacité à vous reconstruire chacun où vous en êtes. Voilà, c'est ça le message. On peut à tout moment, à tout âge, faire ce parcours en étant bien accompagné.
Merci Daphné pour ce beau message lumineux.
Merci Sabine. Merci.
Je vous embrasse.
Très bonne émission à vous. Moi aussi, je vous embrasse.
Et je vous souhaite plein de bonheur et plein d'amour. Au revoir.
Merci, au revoir.
Laissez votre message à Sabine Marin au 739 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Et c'est Marie que j'accueille maintenant. Bonsoir Marie.
Bonsoir Sabine. Je voudrais vous parler d'hypnose.
Oui, alors vous êtes au bon endroit.
Oui, justement, c'est parce que vous êtes hypnothérapeute.
Alors je vous écoute.
Alors voilà, il y a quelques années déjà, j'ai essayé de m'arrêter de fumer.
Oui.
Alors j'ai commencé par les patchs, les gommes, l'acupuncture, les entretiens à l'hôpital, etc. Je n'ai pas réussi. Bon, et je me suis dit, pourquoi pas l'hypnose, puisqu'elle donne des résultats.
Mmh.
Alors, je me suis renseignée, je ne suis pas allée à l'aventure. Et on m'a donné des noms et des adresses. J'en ai consulté 5 ou 6.
C'est beaucoup.
Et je dois vous...
Ouais.
Pardon.
C'est beaucoup, 5 ou 6, pour une séance
d'arrêt
de travail.
C'est énorme, mais je voulais absolument. Et pour, à vrai dire, à part une dame médecin qui était très correcte, qui m'a reçue une fois et qui m'a dit « Je regrette, je ne peux rien faire pour vous ».
Pourquoi elle vous a dit ça?
Je ne sais pas. Elle m'a fait une séance. de ce qu'elle savait faire. Et puis elle m'a dit, je ne peux pas, c'est pas la peine de revenir me voir, ça ne va rien donner.
Elle n'était peut-être pas formée à ça, en fait.
Je ne sais pas, elle se présentait comme quelqu'un qui faisait ça, en tout cas.
C'est curieux, oui.
Oui.
D'accord, donc avec elle, une fois, et puis elle vous dit non, merci.
Oui. Alors, j'en ai consulté d'autres au fur et à mesure. Encore une fois, je répète, il m'avait été recommandé.
Oui.
Et pourtant, ce que j'ai constaté, c'est que la plupart font de l'hypnose une espèce de commerce qui fait gagner beaucoup d'argent. Parce qu'il faut vous revenir plusieurs fois. Ça coûte cher. À l'époque, je travaillais, je pouvais. Et vraiment, il y en a qui sont pas corrects du tout. Et voilà, j'en suis aujourd'hui. Le dernier pneumologue que j'ai consulté m'a dit, madame, il est impératif que vous arrêtiez de fumer parce que vos poumons sont en très mauvais état et ça va mal finir. Et je ne sais pas quoi faire.
Ok, et excusez-moi juste, c'est quoi ce petit bruit derrière vous là qui sonne toutes les 30 secondes?
Ah, c'est moi. C'est mon téléphone portable qui fait ce bruit insupportable. Et je ne sais pas pourquoi. Je le cache, je le mets sous l'oreiller.
D'accord. Asseyez-vous dessus.
Bon, quand même, oui.
On va prendre le temps, Marie, de développer tout ça parce que ça m'intéresse évidemment au plus haut point.
Oui.
Ce que j'aimerais savoir, c'est vous avez commencé à fumer à quel âge?
Oh, à 18 ans.
Pour faire comme les grands, j'imagine, pour imiter les copains et les copines.
Tout à fait.
Ouais.
Tout à fait.
Et vous avez fumé en moyenne combien de cigarettes par jour? Combien de paquets par jour?
Alors, c'est arrivé jusqu'à un paquet, puis c'est monté jusqu'à un paquet et demi.
D'accord. Et quel a été le premier déclic pour arrêter? C'était les problèmes de santé?
Non, non, j'étais jeune encore à l'époque, mais je me disais, c'est trop bête, ça ne sert à rien.
Oui.
C'est salissant. Enfin, je pensais que c'était inutile.
Mais est-ce que vous en aviez vraiment envie d'arrêter?
Oui.
Oui, c'était sincère, c'était une vraie envie.
Oui, oui, j'en avais vraiment envie parce que je n'étais pas encore très contaminée, si vous voulez.
Je pense que si, quand même, après tant d'années.
Non, mais là, je vous ai dit, j'ai commencé à 18 ans, je devais avoir 21 ans.
Ah, quand vous avez commencé l'hypnose?
Non, à m'arrêter de fumer.
Ah mais comment alors à 21 ans? Ah oui, c'est là que vous avez commencé avec l'acupuncture, les patchs et tout ça, c'est ça?
Non, j'ai commencé à vouloir m'arrêter par moi-même là.
Ouf. Et alors là?
Donc je fais des efforts. La seule chose que je suis arrivée à faire, c'est de m'arrêter 2 mois.
Oui.
Parce que j'étais dans un endroit où personne ne fumait, où on ne pouvait pas fumer. Alors c'était obligatoire.
Oui, mais malheureusement, quand on essaye par la volonté, ça dure très rarement. C'est très rare les gens qui arrivent tout seuls. C'est pas la volonté qu'il faut activer dans ces cas-là, c'est l'inconscience, c'est l'autre partie de votre cerveau qui vous fait fumer alors que vous ne voulez pas le faire.
Oui.
Alors donc cette première séance avec cette femme médecin, ok, ça ne fonctionne pas, elle le sent pas, elle vous le dit, à la limite elle est honnête au moins, elle vous dit ça ne marche
tout
pas.
Tout à fait.
La deuxième séance, il se passe quoi? C'était avec quel genre de thérapeute et
alors,
dans quelle ambiance?
Alors la deuxième séance, je suis allée chez un de ceux qui font des comment on appelle ça à la télévision, vous savez,
des visios? Non, je sais, c'est quoi je sais pas ce que
non, qui font des choses à la télévision, ils hypnotisent quelqu'un, ils lui font faire ci et ça.
Mais c'est
et
du
ça.
Spectacle ça.
C'est du spectacle. Alors celui-là, il n'a pas dit non plus, il m'a parlé, il m'a donné un livre, il m'a vendu un disque, enfin je vous dis pas. Bon.
Ah, est-ce que c'est... Enfin, je ne vais me donner aucun nom, hein. C'est juste pour savoir, parce que j'en connais quand même pas mal dans ce domaine. Est-ce que c'est un monsieur un peu âgé?
Oui.
Avec une moustache?
Je ne me souviens plus s'il avait une moustache ou pas. Mais il reçoit... La plupart des autres reçoivent plusieurs personnes à
alors
la fois.
Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'on vous a ensuite fait subir des séances de groupe?
Il n'y a eu que des séances de groupe.
À chaque fois?
À chaque fois. Alors, ils nous mettent dans un fauteuil, relaxez-vous, etc. Vous ne devez plus fumer, vous allez pouvoir arrêter de fumer. Bon.
Ouais, moi, je vous avoue que j'ai un gros problème avec ça. Je sais que beaucoup d'hypnos le font pour le tabac, en me disant que ça fonctionne.
Oui.
Moi, je récupère tous les gens chez qui ça n'a pas fonctionné. Ça fonctionne 15 jours, 3 semaines, et pas plus, parce que ça n'est pas personnalisé. On ne doit pas chercher vraiment la raison pour laquelle vous fumez et la raison pour laquelle vous voulez arrêter de fumer.
Oui.
Et quand on fait des séances de groupe, malheureusement, moi je le constate tous les jours, ça ne dure pas.
Non.
Effectivement,
d'accord.
Quand vous dites ce sont des gens qui se font beaucoup d'argent en peu de temps, c'est facile quand on prend 5 ou 10 personnes sur une séance.
Oui.
Vous multipliez le prix de la séance par 10, évidemment.
Vous vous rendez compte.
Mais oui. Au niveau de l'efficacité sur la durée, moi je valide pas ça du tout. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire, du tout.
Oui, oui.
Du tout. Parce que ce n'est pas un accompagnement personnalisé et les gens ont besoin aussi d'aller plus loin quelquefois. Moi, quand je fais des séances tabac, les gens pleurent pendant la séance parce qu'on va chercher très loin ce qui s'est passé. Et il y a souvent des émotions cachées qui remontent et quand elles remontent, c'est qu'il y a une raison.
Oui.
Et on dit en anglais « no emotion, no motion ». Quand il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de mouvement. Et dans des séances de groupe, il y a rarement de l'émotion qui remonte. C'est un peu à la chaîne.
Oui, non, il n'y en a pas eu, non.
Mais non, parce qu'on ne travaille pas sur des choses en profondeur, on travaille sur des suggestions. Vous savez, un jour, j'ai quelqu'un qui m'a raconté, j'ai cru que c'était une blague, qu'il est allé voir un hypnothérapeute pour arrêter de fumer, et que l'hypnothérapeute l'a fait mettre debout, l'a secoué pendant une heure en lui criant dessus, « Fumais-tu, fumais-tu, fumais-tu » J'ai cru que c'était une blague. Vaut mieux en rire. Malheureusement, dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres, il y a des charlatans, il y a des gens pas compétents, il y a des gens qui veulent faire trop vite. Ou alors, il y a aussi des fois où c'est pas la bonne personne pour vous. Il y a peut-être des gens qui sont très bien, mais ça ne colle pas avec vous. Il faut aussi voir ça. Vous voyez ?
C'est possible.
Et des fois, c'est aussi pas le bon moment. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'il faut être prêt. C'est pour ça que je vous ai posé des questions sur votre motivation. Moi, si quelqu'un vient me voir pour arrêter de fumer alors qu'il est en deuil, qu'il vient de divorcer ou qu'il a été licencié, j'ai 9 chances sur 10 de me dire que ça ne marchera pas. Parce que ça fait beaucoup de choses à gérer d'un coup.
Oui, c'est plus difficile, oui.
Donc il faut être prêt, il faut en avoir vraiment envie. Ça, l'envie, on ne peut pas l'avoir pour vous. Mais si vous en avez envie, croyez-moi, l'hypnose est très efficace.
Oui, je le crois aussi. Mais j'aimerais tomber sur une séance ou plusieurs séances qui soient efficaces.
Pourquoi avez-vous recommencé avec des séances collectives si ça n'avait pas fonctionné ?
Mais parce que je n'étais pas au courant au début.
Non, mais vous l'avez vécu sur vous. Si à partir du moment où vous vous rendez compte qu'une séance collective ne fonctionne pas, ben, il vaut peut-être mieux
parce
aller voir.
Parce que je voulais absolument arrêter de fumer.
Oui.
J'étais prête à tout. J'ai même entraîné un ami qui voulait m'arrêter de fumer. Et la première chose qu'on a faite en sortant de chez le type, c'est juste tout de suite d'aller allumer une cigarette.
Est-ce que vous avez revu les thérapeutes avec qui ça n'a pas fonctionné, pour leur dire ?
Oui, je suis retournée. Parce que je croyais qu'à la deuxième fois, ça allait fonctionner. Qu'à la troisième fois, ça allait fonctionner. Bon, à la troisième fois, si je suis rentrée chez moi.
Bon, ce qu'on va faire, Marie, c'est qu'on va continuer à se parler, mais juste après les infos, parce que l'heure tourne.
D'accord.
Vous ne quittez pas, s'il vous plaît. On reprend notre conversation dans une poignée de secondes.
Merci.
Merci à vous. À tout de suite. Et on se retrouve pour la deuxième partie de cette libre antenne sur Europe 1. Il est minuit 6, presque minuit 6. Ça veut dire que nous sommes le 6 décembre. C'est donc officiellement la Saint-Nicolas. Et j'en profite pour souhaiter une très bonne fête à notre Nicolas, à nous. Bonne fête, Nicolas. Je t'embrasse. La suite donc de cette libre antenne jusqu'à 1h du matin en direct. Vous pouvez continuer à nous appeler si vous souhaitez prendre la parole. Vous faites le 3921 et vous tomberez justement sur Nicolas ou sur Cindy qui sont là au standard et qui attendent vos appels pour vous guider jusqu'à moi. 3921 donc pour le téléphone. Pour les SMS, 739 21 739 21, suivi du menu et de votre message, des SMS pour donner votre avis, apporter un soutien ou demander à être mis en relation avec quelqu'un qui vous a particulièrement intéressé ou touché. 739 21, suivi du menu. Et puis je vous redonne notre adresse mail, libreantenne en un seul mot, libreantenne@europe1.fr. Voilà, vous savez tout.
Sur Europe 1, la libre antenne, Sabine Marin.
Et je vous retrouve, Marie, avec vos déboires hypnotiques.
Oui.
Mais au total, combien d'hypnothérapeutes avez-vous vu ? Parce que vous m'avez dit qu'on avait vu plusieurs fois les mêmes. Donc finalement, au total, c'est
5 ou 6.
Et plusieurs fois chacun ?
Oui.
Ah, ça me perturbe un petit peu quand même. Quand vous êtes retournée voir ceux avec qui ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ?
Ils ont refait la même chose. C'est-à-dire, on s'est assis dans des fauteuils et de nouveau,
d'accord,
etc., etc.
Bon, il est clair que vous, ça ne vous convient pas. Ce n'est pas le genre de travail. Il y a des gens chez qui ça fonctionne. Ça peut. Mais quand ça ne fonctionne pas une première fois, je pense qu'il est plus intéressant de prendre la personne entre quatre yeux pour l'expliquer, pour comprendre où ça bloque. Quel est le mécanisme qui fait que ça ne fonctionne pas chez vous, voyez ?
Oui, oui.
Donc, il faut une approche différente parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets, visiblement.
Oui, sauf si je tombais sur quelqu'un qui saurait de quoi... Pourquoi je fume et pourquoi je n'arrive pas à m'arrêter ?
C'est surtout ça qu'il faut comprendre. C'est qu'est-ce qui, chez vous, fait que ça coince ? Mais quand vous dites...
Enfin,
oui,
oui.
Non, allez-y.
Quand on arrête, on devient très triste. Pour moi, en tout cas, le matin, on ne peut plus se lever, boire un café et prendre une cigarette, ce qui est un plaisir pour les
Alors
fumeurs.
Si, bien sûr que si, on peut le faire à condition d'avoir associé le café avec un autre plaisir.
Oui.
Pour ne pas
oui.
essayer cette tristesse, justement.
Mais c'est comme ça. En tout cas, ça m'a rendue très triste, moi, pendant plusieurs jours.
Vous, ça vous a
rendu jours.
Triste, d'accord. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler avec vous.
Oui.
C'est rassurer la partie de vous qui a peur de devenir triste ?
Je ne sais pas.
Quand vous dites qu'on vous a recommandé ces gens-là, qui vous les a recommandés ? Parce que ça,
alors,
cinq
des
fois,
amis.
Ça fait beaucoup quand même. Hein.
Oui, 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 je suis tout à fait d'accord. Des amis. On me disait, celui-là est très très bien, celui-là a eu beaucoup de résultats, celui-là, je ne sais pas quoi. C'était toujours par personne interposée.
Mais ce qui est fort possible en plus, parce qu'effectivement, des gens peuvent avoir de très bons résultats, mais quand ça ne marche pas avec vous, recommencer de la même manière, c'est pas normal. Enfin, c'est...
Non, non. Il y en a un qui me faisait écrire des lettres à chaque fois.
Pour, à qui ?
À moi, je devais écrire une lettre et la lui soumettre chaque fois que je le voyais.
Pour dire quoi dans cette lettre ?
Ce que je voulais.
D'accord.
Mais je crois que celui-là ne comprenait rien à rien. Hein. C'était le moins capable.
Je ne sais pas. En tout cas, ça ne vous a pas convenu. Ce qui est dommage, c'est finalement d'être resté avec des gens qui ne vous ont pas convenu. C'est parce qu'ils peuvent convenir à d'autres personnes, mais
oui.
pas à vous.
Et pour terminer, j'ai consulté un médecin très connu, très célèbre. Eh bien, vraiment, c'est un grand charlatan, je vais vous dire.
Mais toujours en hypnose ?
Oui, il a demandé, mais un prix faramineux, on s'est fâché. Hein. Je lui ai dit non, je ne vous donnerai jamais ça.
Donc vous n'avez pas travaillé avec lui ?
Si, il m'a fait une séance, je lui ai dit, je peux vous payer ça. Donc il m'a fait une séance, il s'est moqué de moi, des gens que j'avais consultés, et c'était très désagréable.
Ah là là, ça m'embête vraiment,
Oui, oui.
Ça m'ennuie. Et pour vous et pour la profession.
Oui. Mais enfin, vous n'y êtes pour rien. Mais je vous ai souvent entendu dire « Cherchez un hypnothérapeute sur Internet ». Là, je n'ai pas le courage de faire ça.
Ah, je pense que vous m'avez mal écouté, Marie. J'ai souvent dit non. Demandez surtout à des professionnels de santé des recommandations, à des médecins, à des infirmiers, à des pharmaciens qui les connaissent.
Oui.
Eh oui. Je ne vous ai pas dit « Cherchez sur Internet ». Sûrement pas.
Ah. Alors, j'ai mal compris.
Quand je parle de chercher sur Internet, c'est en ayant éventuellement... J'ai dit ça à quelqu'un en lui disant ensuite, contactez-moi pour me dire de qui il s'agit. Que je vérifie avec vous si c'est quelqu'un de sérieux.
Ah, d'accord.
Maintenant, là, il y a un autre problème. C'est que là, vous avez eu affaire à des gens qui probablement étaient sérieux, mais qui n'ont pas été dans la bonne démarche avec vous, on va dire.
Oui, c'est possible.
C'est ça aussi qui est compliqué.
Non, c'est rien, en fait.
C'est ça qui est compliqué. C'est que c'est pas forcément qu'ils sont malhonnêtes ou incompétents, c'est que ça n'a pas... C'est pas ce qu'il vous fallait.
En tout cas, il y a des deux. Hein.
Il y a les deux, oui, c'est ça.
Il y a des deux. Mais là, si je ne m'arrête pas de fumer, je finis sous oxygène. Et ça me fait peur, vraiment. Qu'est-ce que vous voulez ?
Je cherche comment vous aider. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la santé, là, en dehors de... Pourquoi vous finiriez sous oxygène ? De quoi souffrez-vous ?
Parce que mes poumons sont très abîmés. C'est ce que mon pneumologue m'a dit, là.
Mais ça veut dire qu'il y a une pathologie déclarée déjà ou pas ?
Oui, il y a un gros emphysème.
Ah.
Et ça fait déjà un an qu'il m'a dit ça. Et je ne suis pas arrivée.
Ah.
Et je ne voudrais pas finir sous oxygène, ça c'est sûr.
Et donc, quelle est votre demande ce soir, Marie ? Qu'est-ce que vous attendez de moi ?
Qu'est-ce que je dois faire ? Comment je peux trouver un hypnothérapeute valable ?
Oui.
En étant confiante, vous voyez, je voudrais aller chez lui en ayant confiance.
Oui, je sais bien. Alors, ce qui me pose problème, et je vais être très honnête avec vous, c'est que d'abord, je n'en connais pas 10 000. Ensuite, quand je fais ça, il m'est arrivé que ça se retourne contre moi, parce que si jamais ça se passait mal, parce que je ne suis pas non plus dans l'intimité du cabinet de la personne.
Oui.
Après, les gens se retournent vers moi en me disant « c'est de votre faute, ça ne s'est pas passé comme je voulais » et je me retrouve à gérer des situations qui ne me regardent pas du tout. Et surtout, j'ai 50 demandes par jour de gens qui me prennent pour un annuaire sur pattes, si vous voulez, et qui veulent des coordonnées dans la France entière. Et je ne connais pas des hypnos dans la France entière et je ne peux pas non plus passer mes journées à répondre à cette demande-là. Vous comprenez bien que j'ai un travail aussi à côté.
Bien sûr.
Là, vous êtes à l'antenne, donc c'est un peu donnant-donnant. Donc, vous avez pris la peine d'appeler et de raconter un peu votre histoire, donc j'aimerais vraiment pouvoir vous aider. Vous êtes dans Paris, c'est ça ?
Oui.
Dans quel coin de Paris ?
19e.
19e. Hmm.
J'ajoute quand même que ni mon médecin traitant, ni mon pharmacien, ni je ne sais plus qui ne connaissent d'hypnothérapeute. J'ai tout demandé à tout le monde.
Ah vous ?
Oui, même à l'hôpital, je vous dis, je suis allée consulter. Il y a des séances de tabacologie, de je ne sais pas quoi.
Parce que l'hypnose contre le tabac, ça rentre beaucoup dans les hôpitaux aussi maintenant. Il y a des,
mais oui,
il y a des services qui proposent ça.
Mais oui, j'aimerais bien. Ce serait formidable. Enfin, voilà.
Je suis tiraillée entre l'envie et la raison. Bien sûr, j'ai envie de m'occuper de vous, mais je ne vais pas pouvoir le faire parce que ce n'est pas déontologique. Et en même temps, je veux vous aider. Est-ce que vous permettez que je vous rappelle, Marie, demain ?
Oui, bien sûr.
On peut faire ça ?
Bien entendu.
Je vais réfléchir à ce que je peux faire de mieux pour vous aider, vous orienter.
Vous ne me trouverez pas l'après-midi.
Je ne vous trouverai pas l'après-midi. Bon. Je vous trouverai quand, alors ?
Soit dans la matinée, soit en soirée.
Est-ce que vous êtes à l'aise avec Internet et les mails ?
Non.
Non. Ah, zut. Je vous aurais envoyé quelque chose, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec un ordinateur, ça ne va pas être facile.
Non.
Bon, je prendrai le temps de vous parler un petit peu plus personnellement, si vous le voulez bien.
Merci infiniment.
Pour essayer de vous aider. Je vous rappelle, si ce n'est pas demain, ça sera mardi.
D'accord.
Mais je garde votre téléphone avec votre permission et je vais essayer de voir comment je peux vous orienter et vous être d'une aide, d'une manière ou d'une autre, dans ce chemin-là. D'accord ?
Volontiers, je vous remercie d'avance.
Je vous en prie, Marie, avec plaisir. Je vous embrasse.
Au revoir.
Au revoir.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Oui, oh d'accord, ça marche mieux quand le micro est ouvert, d'accord. Allez, il est l'heure d'accueillir Francine. Bonsoir Francine.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue à vous.
Merci Sabine.
Oh, quelle jolie voix souriante, Francine.
Bah, écoutez, c'est tout à fait naturel, je ne force rien, mais c'est comme ça, on me l'a déjà dit, oui, en fait. Alors je vous ai envoyé un mail sur lequel vous avez porté votre attention. Parce que voilà, vous avez tout compris quand je vous ai envoyé le mail, et je suis dans une situation où je ne mérite pas, Sabine. Oh là là. Oh.
Racontez-nous, Francine, racontez-nous en détail.
Sabine, j'ai 4 enfants que j'ai vraiment désirés, ils le savent parce que je leur disais, à chaque fois que votre père me faisait un enfant, je ne l'en aimais que davantage. Et mon mari n'a pas été très raisonnable, on va dire, pour rester dans la modération des propos. Et malgré tout...
Attendez que je comprenne. Qu'est-ce que ça veut dire, pas raisonnable ?
Oh ben, on a été fiancés 18 mois, c'était merveilleux. Puis après... Après, on s'est mariés un 9 avril. Le 10, on s'est tous réunis pour finir les repas de la veille. Et le 17, il me dit « Ah, mon père est triste, il va au football tout seul, je vais avec lui. » Et moi, j'ai une paire de responsabilités parce que plus il m'en demandait, plus je trouvais de plaisir. J'étais peut-être un peu maso, mais il n'a pas été très raisonnable. Et puis, on a été fiancés 18 mois. J'avais pas eu le coup de foudre, mais je m'étais beaucoup attachée. C'était un beau garçon, très gentil. Et puis, un jour, je lui dis, je vais aller choisir ma robe de mariée. Et après, on se revoit et il me dit... Alors, c'était le début des manipulations et de l'emprise, là. Mais je m'en suis pas rendu compte. Et il me dit, tu sais, mes parents sont pauvres et ils sont chagrinés parce que si tu te maries en blanc, on pourra pas suivre avec... avec les vêtements, avec les smoking et tout. Oh, ben je dis, c'est pas grave, moi, c'est pas le fait qu'on se marie. Et moi, j'ai cédé à ça. Et mon beau-père, qui était mon bon papa, qui m'a conduit à l'église, à la mairie, n'était pas content. Il a même pleuré. Il m'a dit, pourquoi ? Ben, je dis, tu sais, ses parents sont pas riches, etc. Et j'ai pas compris que là, c'était le début d'une manipulation. Et puis, voilà. Et puis après, il m'a trompé financièrement, sexuellement, intellectuellement. Il me demandait pas pourquoi j'y suis restée, même avec du recul, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, pour avoir mes enfants, J'avais hâte d'avoir un gros ventre, j'étais contente, oh là 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 là. Alors mes enfants savent qu'ils ont été attendus, mais vraiment avec joie, dans le bonheur, et j'avais une santé que beaucoup de monde envierait, donc tout s'est bien passé. Mmh. Et tout s'était bien passé, et c'est beau de dire à ses enfants je t'aime, mais quand ils savent qu'il y a une affection, une disponibilité. Moi, j'ai pas fait de câlin à mes enfants, je leur disais pas je t'aime, mais j'étais disponible.
Pourquoi vous n'arriviez pas à leur faire de câlin? On sent tellement d'amour pourtant pour eux. Qu'est-ce qui vous en empêchait?
Il n'y a rien. C'est pas que je ne voulais pas. C'est que ça faisait partie de mon quotidien. C'est pas que je m'empêchais. C'est pas que je ne voulais pas. Disons que câlin, c'est prendre l'enfant sur les genoux. C'est non, mais ça. Par exemple, je me souviens quand ils arrivaient de l'école, je les accueillais dehors, je les embrassais fort, mais je leur disais ton goûter est prêt, viens, on va manger ensemble, mon chéri. Enfin, je disais des mots gentils quand même. Hein.
Oui, puis pour vous, ça passait par les gestes et parce que vous faisiez pour eux, en fait, l'amour.
Oui, et puis aussi le mot. Par exemple, quand ils arrivaient de l'école, je leur disais ah, bon, vous allez être contents, voilà. J'avais quatre enfants, quelquefois, ils disaient même on n'avait pas le téléphone portable, mais il y avait un téléphone fixe. Ma fille m'appelait quand elle était en secondaire maman, pour ce soir, tu veux me faire une tarte de telle façon, ou une tarte salée, ou autre chose. Eh bien, si vous voulez, ça peut paraître un peu étrange aux auditeurs qui m'entendent, mais c'était tous les jours des gestes comme ça de bienveillance. Mais on ne se disputait jamais, jamais, il n'y avait jamais de dispute.
C'est pas étrange, Francine, c'est de l'amour aussi, ça, évidemment, c'est beau.
Ah oui, alors, par exemple, mes fils avaient plus de difficultés de concentration. Eh bien, mon fils aîné, je me souviens, il revenait de l'école, comme il était vite fatigué. J'avais un chronomètre, je ne sais plus comment je faisais. Je dis, bon, tu te lèves les mains, tu goûtes, tu prends ton goûter et tu vas jouer. On avait un bac à sable dans la cour, des balançoires, enfin des trucs comme à la campagne. Mm-hmm. Tu joues une demi-heure après, je lui dis, bon, ça y est, t'as fini de jouer, tu viens travailler. On travaillait une demi-heure. Bon, quand je voyais qu'il était fatigué, on relâchait. Vous voyez, lui, c'est ça. L'autre, c'était autre chose. Mes filles, pas de problème. Elles avaient moins de difficultés. Mais, mon copain peut venir manger? Oui, oui, bien sûr. C'était ma voisine disait toujours, chez vous, on dirait pas qu'il y a des gamins, on n'entend jamais hurler. C'était, mais je vous assure qu'on a eu une belle vie. Et adolescent et tout ça, c'est bien passé. Bon, il y a eu des problèmes que j'ai géré du mieux que j'ai pu. Quand le papa était encore là, il y a 4 ans, mon fils de l'heure, mon cadet, venait avec sa femme et mes deux petites filles environ 4-5 fois par an.
Oui.
Le père est mort il y a 4 ans. Et puis après, mon fils de l'heure, par exemple, ça fait 4 fois qu'il vient en 4 ans, dont une pour le mariage de son frère. Ma fille de Marseille n'est pas revenue depuis 4 ans. Et je lui avais proposé, par exemple, comme on ne se voit pas beaucoup, j'ai veux-tu que nous allions à 8 jours à Lyon pour la gastronomie. J'ai pas d'argent, me dit-elle. Elle m'a dit, non, tu es mon invité. Bon, ben ça, il y avait tout. Elle n'est pas venue pour une raison que j'ai oubliée. Après venir dans les Hauts-de-France, elle n'est pas venue non plus. Par exemple, elle me demandait de l'argent parce qu'elle était embêtée, etc. Mon fils aîné était bienveillant, mais bienveillant dans ce sens où il faut pas non plus être veuve abusive. À savoir que quand le papa est mort en septembre 2017, mon fils venait tous les dimanches pour le repas du midi. Et un jour, je lui ai dit, tu sais, Eric, j'ai dit prénom, tant pis. Je lui ai dit, tu sais, j'apprécie ta bienveillance, mais il faudrait peut-être pas prendre l'habitude de te croire obligé de venir chaque dimanche dans le systématique parce que tu as ta vie. Et je lui ai bien dit, je ne te repousse pas, mais tu as ta vie. Et je me souviens, il va avoir dit, la meilleure nouvelle que tu pourrais m'apprendre, c'est que tu rencontres une femme que tu aimes et qui t'aime et vous fassiez votre vie. Il avait 58 ans il y a 4 ans et il avait été marié à un enfant, bref.
Francine, quel âge avez-vous?
Moi, j'ai 87 ans et demi.
87 ans et demi, dis donc.
Oui.
Juste, prenez votre... On a tout le temps. prenez le temps de me raconter les choses. Je sens que vous allez manquer d'air au bout d'un moment, là.
Oui, c'est vrai.
Respirez, ça va aller.
Oui. Hein? Alors, bon, ça s'est bien passé, oui. Alors, il me disait, par exemple, il me dit, viens, je t'offre une journée à la mer. Bon, moi, je viens, ça m'a fait plaisir. Après, il avait même fait un truc. J'avais eu des soucis avec un de mes enfants. Pour me faire plaisir, dans le village, il a mis une photo de mon père qui est mort en déportation à une place où il a des immeubles. Bon, il avait même mis place avec l'identité de mon père, ses références de naissance et de décès. Et le jour où il a fait ça, il a dit à mon mari, de dire à maman que ce soir, on fait un petit repas et tout. Bon, vous voyez, il y avait une sollicitude. Touchante, bon. Mm-hmm. Ma fille de Marseille ne venait pas, mais on disputait pas. Mon fils de l'heure venait avec sa femme, quatre, cinq fois par an, pas plus, mais tout se passait très, très bien. Ces gosses, ils pouvaient pas s'amuser à être là toutes les semaines non plus. Après la mort du papa, voilà. J'ai fait une chose que je regrette, mais je n'ai pas que des devoirs, j'ai des droits comme beaucoup de gens. Mon fils de l'heure m'a payé 5 semaines sans prendre de mes nouvelles. Entre-temps, moi j'appelle, coucou, c'est mamie, vous allez bien? Bon, je me doute que vous avez du boulot. Un bisou à tout le monde, mais quelque chose de détendu. Jamais de reproche, c'est pas l'envie qui me manque, mais c'est pas la solution. Il faut réfléchir dans la vie. Bon. Et voilà qu'il y a 3 semaines d'aujourd'hui, mon fils m'appelle, il me dit, c'est tout à l'eau comme on doit dire, et il me dit ça va, et tout à coup je me mets à pleurer, je dis non ça va pas, j'ai mal à mes enfants, il dit ah bon, je dis François ça fait, je dois pas te dire le prénom, je dis ça fait 5 semaines que tu m'as appelé, et alors me dit-il, ben je dis écoute François, c'est pas difficile, on va plus téléphoner, et il raccrochait vite fait, puis moi aussi. Et après, ma fille de Marseille m'appelle, elle m'envoyait, c'est pas de la virulence, c'est...
Agressive.
Oui, c'est ça. Alors, elle m'envoie une lettre quasiment...
Francine, respirez, s'il vous plaît. Respirez. Ouais. Imaginez que je suis à côté de vous et que je vous serre dans mes bras.
Oh d'accord, merci Sabine. C'est pas de la comédie Sabine. Pas de la comédie.
Je vous crois à 100%. Alors, juste, je m'inquiète pour vous Francine, s'il vous plaît respirez, prenez le temps.
Alors, ma fille, j'étais nourrice et on dit assistante maternelle maintenant, mais j'ai fait un métier, si vous saviez, le bonheur que j'ai eu, j'en ai donné, j'en ai reçu. J'ai encore des contacts de 50, 58 ans et 60 ans de gamins qui ont été ici, avec un petit mot de temps en temps, on prend de mes nouvelles et on se remémore les bons souvenirs. Alors, j'avais une dame qui venait m'aider un petit peu le matin parce que je voulais quand même répondre à mes obligations. Et ma fille de Marseille m'a envoyé une lettre il n'y a pas longtemps que je n'ai lu qu'une fois. Elle me dit oui, pour gagner 2 sous, tu nous faisais coucher tête baisse dans des lits étroits. Elle invente des trucs, mais c'est pas vrai, Sabine. Jamais je ne voudrais vous déranger et mentir. Je ne pourrais jamais vous faire ça. Donc, ce que je vous dis, c'est vrai. Alors, elle m'envoie une lettre que j'ai lue qu'une fois. Je l'ai rangée. Je peux pas. C'est pas possible.
Stop. Prenez le temps de respirer pendant que je parle. On va faire un petit échange.
Ouais.
Vous savez, souvent, quand on a été... Nounou, comme vous dites, comment on appelle ça, en garde assistante maternelle, voilà, c'est le terme. Ça peut être compliqué à vivre pour les enfants de la maman qui fait ça. Il peut y avoir des jalousies parce qu'un enfant a peut-être du mal à comprendre que sa maman donne de l'amour à d'autres.
Bah, tout à fait.
Eh oui, malheureusement, c'est souvent, ça donne des situations compliquées, ça. Oui,
tout à fait. Mais pauvre gosse, vous savez, j'étais famille d'accueil, c'était la DAS à ce moment-là. Et je suis quelqu'un qui réfléchit quand même beaucoup. Je dis pas que j'ai tout fait bien, attention, hein. Je ne m'en vais pas non plus au raisonnement là. Mais mes enfants étaient prévenus que des enfants allaient arriver, etc., etc., que c'était mon métier. Un jour, je leur ai dit, vous savez que si je travaillais à l'usine ou dans un bureau, il faudrait que je parte.
Mais là, oui, mais bien sûr, mais ça, ce sont des concepts intellectuels. Un enfant, il ressent les choses avec son cœur, pas avec son cerveau.
Oui, bien sûr, vous avez 100 fois raison. Et eux, on peut les comprendre. Mais j'ai choisi ce métier et je voulais travailler dans l'enfance. Bon, bref, les événements n'ont pas permis. Mais vous savez que quand les enfants arrivaient, c'était tendu pour eux, mais j'en avais pas des masses. Hein, et c'était un ou deux enfants en plus. Et je me souviens, un jour, il y a un petit qui est arrivé, il allait sur 7 ans. Et bon, voilà, c'est Madame Gerbet. Oh là 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 là. C'est la dame qui va te garder et tout. Et le petit me regarde et dit, je t'aimerais pas. Bah, je le regarde, mais je dis, écoute, c'est pas grave, moi je sais que je vais t'aimer, nous verrons bien. Et l'assistante sociale était là, et c'était quelqu'un de dur, qui avait du métier, et qui nous a regardé, que j'ai ressenti une émotion.
Ah, allô ? Allô ?
Oui. Allô ?
Oui, je vous avais coupé, oui Francine, je vous
Alors,
entends.
Le petit garçon me toisait du regard et tout, et il était là que c'était des retraits temporaires, si vous voulez. Alors, il est resté, je crois qu'il a dû rester, ce petit garçon-là, environ 2 mois. Et tout s'est bien passé et tout. Il faisait comme si, il faisait le petit garçon qui... C'est pas grave, tu fais comme t'as envie. Le principal, c'est que tu te sentes à l'abri.
Francine, on s'égare, là, on se perd un petit peu.
Non, mais c'est vous
dire
que...
Tout ça pour me dire quoi ? Me dire qu'aujourd'hui, vos enfants ne vous donnent plus de signe de vie, c'est ça ?
Non. Alors, mon fils est à 3 km, ça fait 3 semaines que je ne l'ai pas vu. Et quand il vient chez moi, c'est parce qu'il a du matériel à prendre dans ma cour, sinon je ne le vois pas. Ma deuxième fille, Amiens, nous a abandonnés en 2014 parce qu'elle avait envie de le faire. Elle nous a privés de nos 3 petits-enfants et de nos 2 arrière-petits-enfants.
Mais vous l'avez demandé pourquoi ?
Pourquoi à elle, on ne l'a pas demandé, on ne l'a plus revue. Mais, alors, elle avait... C'est troublant de parler de tout ça. C'est tellement pas une belle histoire que je m'y perds. Pourquoi ? Parce que... il y avait mon petit-fils qui habitait dans une maison qu'on leur avait laissée dans notre propriété. De façon très avantageuse. Elle est arrivée à l'influencer. Alors là, je ne suis pas hors sujet, ça concerne tout à fait la mentalité de ma fille. Mon petit-fils me dit bah, « Tu sais, mamie, je ne travaillerai pas comme vous, le week-end, machin. » Mais je dis « Pourquoi tu parles comme ça ?» Il dit bah, « Je ne travaillerai pas autant. » Et il me dit « Quand on travaille trop, on néglige ses enfants, on ne les soigne pas bien. » Mais je dis « Enfin, pourquoi tu dis ça ? Ça n'a pas de sens, il faut travailler. On a bien été obligés, papy et moi, de travailler. » Et bien moi, c'est comme ça. Et je lui dis « Mais qu'est-ce que tu dis ?» On n'a pas négligé nos enfants. Si vous avez fait passer, me dit-il, vous avez fait passer le travail avant vos enfants.
Et voilà, c'est un petit peu ça que je comprends à travers vos histoires, là. C'est que vos enfants vous en veulent, finalement, d'avoir donné trop d'amour à d'autres enfants qu'eux.
Alors, justement.
Et peut-être qu'ils vous le font un peu payer aujourd'hui.
Oh. Alors, je fais quoi, là ? Alors, ma fille et puis mon dernier fils, voilà. Bon, ben voilà. Alors, le matin, vous savez, j'ai entendu avec une de vos consoeurs, une dame de Nantes qui disait « On n'a jamais eu d'histoire avec mes enfants, le papa est mort, maintenant je n'en vois plus aucun et j'en avais 3 ». Et cette dame dit « Vous savez, j'habite Nantes, eh bien, les voitures dans Nantes, ça va très vite. Un de ces jours, je me jetterai sous une voiture ». Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mon Dieu, eh ben, croyez-moi, Sabine, qu'on n'a pas toujours les idées claires quand on est dans les souffrances comme j'y suis. Ah ouais.
Mais ce n'est pas une solution. Et quand on est dans les souffrances, il ne faut pas écouter cette partie de nous qui parle parce que ce n'est pas la plus intelligente partie qui s'exprime dans
je
ces moments-là.
Je ne mérite pas ça, Sabine, je vous jure.
Ben, parce que
je reviens en arrière, bon, évidemment. Mais si j'avais travaillé à l'usine au bureau, j'aurais été là le soir, j'aurais été là le matin. Hein?
Non mais on ne va pas remuer le passé éternellement, Francine, je crains que ça ne serve à rien. Est-ce que un par un, vous ne pourriez pas établir un échange pour comprendre ? passer un coup de téléphone en disant « j'aimerais comprendre pourquoi on ne se voit plus ». Juste ça.
Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Vous n'avez rien à perdre de toute façon.
Non.
Alors, simplement, essayez d'ouvrir un dialogue pour comprendre en disant « voilà, je veux juste savoir qu'est-ce qui se passe, quelle est la raison ».
Oui. Et suivant la réponse, ça ne sera peut-être pas mieux, j'en sais rien.
Oui, mais ça ne sera peut-être pas pire non plus. Hein.
En tout cas, Sabine, j'apprécie beaucoup que nous parlions toutes les deux, mais croyez-moi, Sabine, qu'il est évident que enfants, ils ont eu leur contrariété, voire leur souffrance de voir que... Mais je ne me souviens pas avoir câliné un enfant devant mes enfants, et sans pour autant partager. C'était un partage des sentiments, c'était un partage à table, c'était un partage pour les devoirs, pour les jeux. Et
moi, je le comprends, Francine, mais est-ce que vous leur avez dit ça? Est-ce qu'ils l'ont entendu vraiment?
On n'a jamais vraiment abordé.
Ah, ben voilà. Et je crois que le nœud est là. Mais aujourd'hui, vous êtes une dame qui a plus de 87 ans, il faut faire attention à vous, je pense que c'est le rôle aussi de vos enfants, et qu'il est temps d'instaurer un dialogue vraiment là-dessus.
Ouais.
Je pense qu'il y a eu beaucoup de non-dits. Il y a eu chacun a probablement son ressenti, sa version des choses, qui est peut-être pas du tout la même que la vôtre.
Mais pourquoi ne pas partir dans la générosité, dans la joyeuseté, comme je dis moi? Pourquoi toujours emprunter des voies où il y a de la discorde? Pourquoi emprunter des voies?
Ah, bah parce que l'être humain est ainsi fait, Francine, vous le savez.
Hélas, oui, mais.
Et le seul moyen de contrecarrer ça, c'est d'arriver à ouvrir un dialogue constructif.
Oui.
C'est-à-dire pas dans l'accusation, pas dans le règlement de compte, simplement dire voilà.
Non.
Moi, j'arrive sur la fin de ma vie, j'aimerais que les choses se passent dans l'apaisement et j'aimerais juste comprendre pourquoi. Mais pas en groupe, c'est un par un. C'est un coup de téléphone à chacun en disant voilà, est-ce que tu peux m'accorder au moins le temps de m'expliquer pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a qui te déplaît? Juste ça.
Ouais.
Et vous pourriez être surprise finalement que les choses se passent bien.
Mais voyez-vous, mon fils m'a fait une remarque. Alors, il s'est marié le 7 septembre et dans la semaine ou l'avant-semaine avant, il me dit « je me marie au mois de septembre ». Bon, mais c'est bien, enfin bref, c'est joyeux comme annonce. Et tout à coup, il me dit « t'as remarqué que tu ne le voyais plus souvent ?» Ben, je dis « oui, c'est dommage ». Aussi dommage, ou je ne sais plus ce que j'ai dit. Oui, en effet. Et je lui ai demandé, que se passe-t-il? Tu étais bienveillant et tout à coup, je ne te vois plus du tout. Que se passe-t-il? Eh bien, il dit, tu sais, je ne ferai jamais à mon fils ce que tu m'as fait. Alors, je suis tombée de haut, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai... Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Dis-moi tout de suite, qu'est-ce que je t'ai fait? Alors, il me dit, et il ne m'a pas dit un mensonge, je leur ai dit quand ils étaient... enfant, à quel âge, je ne sais pas, que ma mère m'avait battu avec un ceinturon. Bon, il me dit, tu nous as dit que ta mère t'avait battu avec un ceinturon, on a été traumatisés, on t'en veut encore. Bref, mon fils a 62 ans. Et ma fille appelle, ben je lui dis, je vais te passer ton frère. Ils parlent tous les deux. Il me repasse sa sœur qui me dit « Oui, quand tu nous as dit ça, on a été des nuits sans dormir. » Je suis vraiment désolée. Si je l'ai dit, c'est vrai, ma mère me... C'est vrai. Bon. Alors, moi, au niveau culpabilité, je me suis dit « Mais ce que j'ai fait, c'est dégoûtant. Ils n'avaient pas à savoir ça. » Alors, ils invoquent ce prétexte-là.
Bon, ça, c'est pas un prétexte. Visiblement, il l'a mal vécu et vous pouvez le comprendre. Et vous pouvez aussi lui dire, vous, que vous n'avez pas... mesuré à l'époque, il n'était pas en état de l'écouter.
Ben oui,
mais j'aimerais pointer quelque chose. Vous avez fait un lapsus intéressant. Vous avez parlé de votre fils en disant « mon mari ».
Oui.
Est-ce que depuis la mort de votre mari, vous n'avez pas envie que vos enfants comblent un peu ce vide?
Non, pas du tout. Absolument
vous êtes entouré. Vous avez des amis?
Pardon?
Vous êtes entouré?
Ah oui, oh là là. Oh oui. Ah. Alors, à un point que, bon, on ne va pas tenir l'antenne avec ce sujet-là, mais à un point que vous seriez étonné et ravi pour moi.
Ah bah écoutez, je suis ravie de l'entendre, ça c'est très très bien.
Ah écoutez, franchement, mais même à mon grand étonnement, vite fait, je vais vous dire, j'ai une introspection pulmonaire vendredi prochain. Bon, je suis optimiste, hein, j'ai un médecin très vigilant, je suis en trop bonne santé pour m'attendre à quelque chose de grave. Eh bien, il y a une dame qui m'a aidé au ménage très peu avec une association. Elle s'est attachée à moi. Elle vient de dire bonjour avec son époux, ses enfants. Et tel que je vous parle, j'ai des dessins plein les murs. Les enfants me font des dessins. Et voilà, et voilà. Et cette dame arrive, elle me dit bonjour. Ouais. C'est quand votre introspection pour les poumons à la clinique, machin là? Ben, je dis telle date. Surtout, pas d'ambulance, pas de taxi. Je viens vous chercher le matin tôt et je vais vous rechercher le midi.
Bon, ça, c'est
comme
chouette.
Ça. Cette semaine, j'ai été affolée pour des papiers parce que j'étais un peu perdue. Une dame arrive, me dit « Ah ben, je viens de te dire bonjour. » Ben, je dis « Écoute, je lui dis « Non, 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 tu ne prends pas ta voiture. Moi, je te conduis. » Elle a passé son après-midi pour moi. Mais de ce côté-là, c'est une vie de rêve.
Alors, ça me rassure et c'est très bien. Maintenant, sur le reste, je pense que c'est un ensemble de malentendus, de non-dits et de maladresses de la part de tout le monde, de votre part à vous et de leur part à eux. Et il y a Marie qui nous envoie un message et je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit. Elle dit finalement, si c'est trop d'émotion de leur téléphoner, est-ce que vous pourriez leur écrire une lettre ou la dicter à quelqu'un si c'est difficile? Simplement, pas pour. Il ne s'agit pas d'accuser qui que ce soit, mais Francine, écoutez-moi s'il vous plaît, de mettre en avant le fait qu'il y a eu des non-dits et des malentendus et que peut-être il serait temps d'en parler maintenant. Parce que ça vous fait du mal à tous. Je suis sûre que vous leur manquez aussi beaucoup.
C'est possible.
Ils sont dans une sorte de réflexe de protection et d'agressivité qui, à mon avis, pourrait se débloquer avec simplement quelques explications. Parce qu'il y a de l'amour et il y a de la sincérité dans toutes ces relations-là. C'est juste de la maladresse de la part de chacun et des non-dits. Et il n'y a rien de pire que les non-dits dans une famille.
De toute façon, je ne risque rien, ça ne peut pas être pire, et je comprends très bien, c'est tout à fait bien. Je suis très contente de vous avoir contacté, du conseil que vous me donnez. Et Marie a 100 fois raison, je l'en remercie d'ailleurs.
Oui, je pense que vraiment, vous êtes une femme qui a beaucoup d'énergie, qui est entourée, qui a des amis, vous avez fait les choses du fond du cœur, il y a eu des maladresses, il y a eu des choses qui n'ont pas été comprises par vos enfants. Après, vous ne savez pas ce qui se passe dans leur quotidien non plus. Peut-être qu'ils sont remontés par un conjoint qui peut leur monter un peu la tête. Il y a des choses qui peuvent arriver comme ça.
Ben, j'ai envoyé une carte à mon fils pour son anniversaire, avant la date. Et le jour de la date anniversaire, je lui dis, en complément de ma carte, je te souhaite un bon anniversaire. Et je dis, je te souhaite un bon anniversaire. Et je dis, il y a 53 ans, tu allais montrer ton nez vers un destin d'amour. Et en dessous, je mets « Et nous, les parents, devrions toujours remercier nos enfants d'avoir bien voulu naître. »
Non, c'est joli, ça.
Bon, alors, je t'aime mon fils, bien sûr. Je lui dis « Dire je t'aime à un homme de 53 ans peut paraître un peu puéril, mais tant pis, tu es mon fils, et voilà. »
Nos enfants sont nos enfants pour la vie, c'est non négociable.
Bah tiens, alors, il n'a pas eu la carte. Je rejoins votre raisonnement en parlant qu'il peut y avoir aussi un environnement assez peu propice à notre relation. Il n'a pas eu la carte et je lui mets en complément de ma carte. Et là, il me renvoie un message qu'il ne l'a pas eu. Enfin, bref.
Ah, voilà. Tout ça, c'est important. Et d'après ce que j'ai compris, il y en a un qui vient vous voir toutes les 3 semaines quand même.
Celui qui habite à 3 km, là, ça fait 3 semaines que je ne l'ai pas vu, mais il vient parce qu'il a des matériaux dans ma cour.
Mais vous le voyez, peut-être il pourrait être aussi le premier interlocuteur. Vous pourriez être le premier à qui vous allez parler.
C'est possible, oui, c'est possible. Je peux aussi, comme il est à 3 km, je peux aussi lui faire la lettre dont on vient de parler, qui est très, très, très bonne idée. Très, très bonne idée, oui.
Bah, si vous le sentez mieux comme ça, oui, moi je pense que c'est une bonne chose. Ça pourrait apaiser beaucoup de choses et ouvrir la porte au dialogue et aux malentendus qui ont été...
Enfin, il y a quand même... vous savez, bon, il y a eu ce qu'il y a eu, j'ai été nourrice, d'accord, je veux bien, mais il y a quand même un abandon parce que, ne serait-ce qu'un clou à planter dans la maison, personne ne vient me le faire. Mon fils de l'heure est venu 4 ou 5 fois maximum à la maison. Il a vu qu'il y avait des petits trucs à faire.
C'est pas sympa.
Moi, je veux bien qu'étant nourrice, il y ait eu un petit côté ennuyeux pour les... Je veux bien ennuyeux pour les enfants. Bon, mais
c'est pas grave. Peut-être qu'il n'y a pas que ça. Ce que je veux vous dire, Francine, c'est qu'il est temps d'ouvrir le dialogue, vraiment.
Oui, c'est vrai. Vous avez 100 fois raison. Alors, je vais faire ça et je ferai comme j'ai fait la dernière fois. Je vous tiens au courant par mail, que ce soit négatif ou positif.
Avec grand plaisir. Et on terminera simplement pour vous dire qu'il y a beaucoup de messages de soutien qui arrivent pour vous. Et bon. Marie qui vous dit « J'embrasse Francine et j'aurais tellement aimé avoir une maman comme elle ». Vous voyez ?
Ah, bon.
Ça fait chaud au cœur des messages comme ça.
Ah oui, mais vous savez que c'est vrai, j'ai pas tout fait bien, c'est certain.
Mais personne ne fait tout bien, surtout les mamans, c'est bien connu. Allez, faites ça, Francine. Vous allez rouvrir la porte au dialogue et je suis sûre que ça va débloquer les choses.
En tout cas, merci Sabine et merci à Nicolas que j'ai appelé Paul. Mea culpa, mea culpa.
En plus, c'est sa fête aujourd'hui, alors vous ne pouvez pas le rater.
Ah oui, c'est vrai. Bon, on termine ça sur un éclat de rire quand même, d'accord ?
Je vous embrasse très très fort, Francine.
Allez, moi aussi, vous embrasse très fort. Et je fais mes amitiés aux auditeurs. Hein. Une amitié bien sincère et fraternelle. Au revoir tout le monde. Merci,
Francine.
Au revoir.
Laissez votre message à Sabine Marin au 739 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Et nous allons faire maintenant la connaissance d'Alice. Bonsoir à vous, Alice.
Bonsoir, Sabine.
Bienvenue.
Merci.
Qu'est-ce qui vous amène ce soir, là ?
J'aimerais comprendre pourquoi maman ne m'a pas aimée.
Ah. Alors racontez-moi ça. Quel âge avez-vous ?
J'ai 80 ans.
Ouh là là, mais c'est la soirée des grands-mères ce soir. Moi qui n'ai plus les miennes, j'ai toujours eu beaucoup de tendresse, beaucoup de plaisir à parler avec des dames qui ont votre âge.
Oui, mais je suis célibataire, je n'ai pas eu d'enfant.
Ah bah vous aurez pu m'adopter, vous voyez, moi qui n'ai plus de grand-mère.
Oui, avec plaisir.
Alors qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance, Alice ?
Eh bien, quand je suis née, maman attendait un garçon. Elle avait garni le berceau.
Comment elle pouvait savoir ça ? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'échographie.
Non, mais elle avait décidé que ce serait un garçon.
Ah, d'accord. Bon, ok.
Elle avait garni le berceau en bleu.
C'était son premier enfant ?
Non, elle avait une fille de 6 ans.
C'est pour ça, elle voulait le choix du roi.
Voilà. Et ma grand-mère avait eu 5 garçons, donc elle était heureuse de lui donner une petite fille.
Oui.
Mais moi, je devais être un garçon. Bon, ça a été sa première déception.
Enfin, pardonnez-moi, vous deviez être un garçon dans sa tête seulement, hein, pour le reste.
Oui,
enfin,
oui.
Oui, voilà.
Et ensuite, papa est décédé, j'avais 11 ans.
Oui,
elle m'a toujours dit, il faut mieux perdre son enfant que son mari.
Waouh.
Elle ne m'a jamais pardonné la mort de papa.
Mais qu'est-ce qui s'est passé ? De quoi est-il mort ?
Il avait une malformation cardiaque, il est mort à 45 ans.
Mais
45 ans.
Donc personne n'y est pour rien.
Mais non, c'est ce que je pense.
Surtout pas vous. Mais elle avait un problème, cette femme, parce que pour être à ce point-là, dans l'attente d'un garçon, pour rejeter sa fille et pour dire à son enfant, il vaut mieux perdre un enfant qu'un mari.
Oui.
Elle avait probablement elle-même vécu des choses un peu compliquées, non ?
Ah, pas du tout.
Non, même pas ?
Elle a eu une enfance très heureuse.
Mais qu'est-ce qui a pu l'amener à dire des choses aussi horribles ?
Ben c'est pour ça que je me pose des questions.
Est-ce que, comment ça s'est passé quand vous êtes arrivée au monde avec votre grande sœur ?
Ah ben ma grande sœur ne m'a jamais acceptée.
Ah, et ben voilà, je pensais à ça aussi.
Ma grande sœur m'a dit, tu as pris ma place quand tu es née.
Parce que le schéma qui se dessine là, c'est une grand-mère qui a fait que des garçons. Votre mère qui est très heureuse de lui offrir une fille, de dire ça y est, j'ai amené une fille dans la famille. Une fille qui allait probablement être un peu une petite princesse.
Absolument.
Et puis arrive un deuxième enfant 6 ans plus tard, et la petite princesse, elle n'est pas contente.
Elle
doit faire probablement des caprices, des histoires. Et du coup, la maman peut-être un petit peu se dit « Zut, elle est malheureuse à cause de moi, donc à cause de vous. » Ce qui est complètement absurde, mais ça peut être aussi une façon de comprendre un schéma de fonctionnement. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
Comme si c'était finalement plus facile de mettre la faute sur vous que sur son incapacité à elle de mère de gérer la jalousie de son aîné.
Mais papa m'a beaucoup aimé, je crois qu'il a compensé. Je crois qu'il se rendait compte que maman ne m'aimait pas.
Oui. Je ne suis pas sûre qu'elle ne vous aimait pas, c'est peut-être un raccourci, elle vous aimait mal en tout cas.
Oui, peut-être.
Comment est-ce que vous le ressentiez enfant ? Ça se traduisait comment, ce manque d'amour ?
Ben, j'avais papa jusqu'à 11 ans.
Non, mais avec votre mère, elle ne s'occupait pas de vous ? Elle prenait pas de temps avec vous ? Elle vous considérée comme différente de votre sœur, comment ça se passait ?
Ah ben oui, ma sœur avait tous les défauts, toutes les qualités. Elle me montrait toujours ma sœur en exemple.
Eh oui. Donc c'est très humiliant ça.
Oui, elle m'a humiliée toute ma vie.
Oui. C'est difficile d'avoir confiance en soi quand on grandit comme ça.
Et j'ai toujours vécu avec elle. On avait une petite ferme, on a beaucoup travaillé parce que je l'admirais, maman. Elle était très courageuse. Mmh. Elle savait travailler. Et elle est morte à 106 ans.
106 ans ? Bah, dis donc.
Et c'est moi qui ai assumé jusqu'au bout.
Et comme c'est souvent le cas, on l'entend souvent sur cette libre antenne, ce sont les enfants qui ont été les plus maltraités qui sont les plus présents à la fin.
Elle n'a jamais reconnu que je m'occupais d'elle.
Et j'imagine que vous, de votre côté, vous espériez un peu d'amour en retour.
Voilà, j'ai toujours espéré.
Eh oui.
Et quand quelqu'un lui rendait visite, on lui disait « Mais vous avez la chance d'avoir votre fille avec vous ». Elle n'a jamais dit oui, elle disait « Oh, mais mon autre fille vient ».
Ouais. Jusqu'au bout, elle vous aura déçue.
Ah, jusqu'au bout.
Et vous savez, à un moment, malheureusement, surtout que... Là, quand elle avait 106 ans, vous aviez quel âge, vous ?
Eh bien, il y avait 30 ans de différence entre nous deux.
Donc 80... Je ne sais plus, à cette heure-là, ne me demandez pas de quel... 76, me dit Cindy. Merci Cindy.
Oui, ça doit être ça, oui.
Oui, donc déjà, oui. Vous étiez quand même à un âge où c'était important aussi de vous occuper de vous. Et à la place de ça, vous avez encore pris le temps et l'énergie de vous occuper d'elle avec zéro retour, zéro reconnaissance.
Oui.
Ouais. Et le problème, quand, et j'en parle assez régulièrement sur cette antenne, quand on perd une mère qui a été comme ça, on a un double deuil à faire. On doit faire le deuil de sa mère, le deuil classique, et on doit vraiment faire le deuil définitif de la mère qu'on aurait aimé, voulu avoir et qu'on n'aura jamais.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui doit vraiment fermer cette page et se dire c'est terminé, c'est comme, tant pis, c'est comme ça, je n'ai pas eu la mère que j'aurais voulu avoir.
Mais oui, mais ça fera 5 ans demain qu'elle est partie et j'y pense toujours, toujours, et je me pose toujours des questions, pourquoi elle ne m'a pas aimée.
Parce qu'elle n'en a pas été capable, ce n'est pas de votre faute à vous. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est
mais
que son comportement dit beaucoup de choses sur elle, mais pas sur vous. Ce n'est pas que vous n'aviez pas de valeur, ce n'est pas que vous n'étiez pas une petite fille aimable, c'est qu'elle avait un problème. Et pour vous, le travail aujourd'hui, c'est d'accepter que vous ne comprendrez pas ce problème, que vous ne saurez pas, et que tant pis, c'est comme ça.
Et maintenant, je vis toute seule, et ben, toute la journée, j'y pense, et la nuit, je rêve qu'elle est là, enfin bon.
Alors, vous avez probablement besoin d'évacuer ça, d'en parler, de déposer ça chez quelqu'un. Est-ce que vous n'auriez pas envie de faire une petite thérapie pour aller déposer ça un petit peu ?
Ben, quand j'ai été à Paris parce que j'ai une rétinopathie pigmentaire. Et j'ai été opérée à Paris pour une rétine artificielle et ça n'a pas réussi. Et là, j'ai vu des psychologues.
Oui, mais vous n'avez pas vraiment entamé une thérapie ?
Non.
Parce que là, vous me dites que vous êtes seule à ruminer tout ça. Je pense qu'il serait bien de pouvoir déposer ça chez quelqu'un, vous voyez, au bout d'un moment. D'en parler.
Mais oui, mais...
D'en parler.
Je n'habite pas en ville. Il faudrait que quelqu'un me conduise.
Il y a aussi des psychothérapeutes, des psychologues qui font des consultations par téléphone, tout simplement.
Ah oui ?
Bien sûr. Vous pouvez demander ça, trouver ça. Demander à un médecin généraliste ou à un pharmacien de vous trouver ça. Même pas longtemps, mais pour pouvoir... Parlez tout ce dont vous avez besoin de parler, évacuez tout ça et peut-être à un moment arriver à comprendre que la seule solution pour vous libérer, c'est juste de lâcher prise, d'arrêter d'attendre.
Mais oui.
Mais oui.
Mais parce que je n'ai jamais pu parler, maman m'accompagnait même chez le médecin. Elle rentrait avec moi dans le cabinet.
Drôle de personnalité quand même, hein, cette maman.
Et quand je téléphonais, elle prenait l'écouteur. À l'époque, il y avait un écouteur. Et...
Ah oui. Très invasive, donc.
Et quand j'aurais pu me marier, elle m'a dit, un jeune homme qui était amoureux de moi, elle m'a dit, mais tu te fais des idées. On ne pouvait pas m'aimer.
Oui, elle vous a vraiment pourri la vie.
Mais oui.
Je pense qu'il n'y avait rien à attendre d'elle pour des raisons, effectivement, qu'on ne saura jamais, ni vous ni moi. Pourquoi ? Quelles ont été ses faiblesses ? Quelles ont été ses blessures qui ont fait qu'elle a fonctionné comme ça ? On n'en sait rien, on ne le saura pas.
Mais non.
Et je crois que le seul moyen d'avancer plus légère dans votre vie, c'est d'arrêter de chercher. Arrêter de creuser parce que c'est un trou sans fin, c'est un puits sans fin.
Et par contre, quand elle est morte, j'ai des cousins qui sont restés quelques jours avec moi et ensuite il fallait que je... Elle est morte dans la maison, ici.
Mmh.
Et après, il a fallu, quand mes cousins sont partis, bien, j'ai enlevé les draps dans lesquels elle était. Et j'ai presque honte de le dire, mais j'ai senti comme un grand soulagement.
Oh, n'ayez surtout pas honte, Alice, surtout pas. J'allais vous dire, vous auriez même pu les brûler symboliquement, vous voyez.
Je sais pas, je trouvais ma liberté est bien limitée, mais il me semblait que je trouvais...
Eh oui, je comprends, je comprends. Elle vous a oppressé, elle vous a brimé, elle vous a humilié tellement, tellement souvent et pendant tellement d'années qu'il n'y a aucune honte à ressentir un soulagement quand ça s'arrête. Hein.
Et je me dis toujours, mais comment c'est possible d'être comme ça avec son enfant, enfin bon.
Mais je vous dis, c'est probablement le résultat de blessures qui n'ont pas été soignées chez elle qu'on ne connaîtra pas, puisque voilà, maintenant c'est trop tard. Ça vient forcément de quelque chose. Une mère normale, entre guillemets, une mère aimante, ne se comporte pas comme ça. Elle avait des lacunes, elle avait des faiblesses, elle avait des blessures, elle avait des peurs qu'elle n'a pas su gérer. Et malheureusement, vous avez été toute sa vie son punching ball.
Eh oui.
Et donc là, vous pourriez effectivement aller en parler un petit peu si vous en avez besoin, mais en même temps, continuer à remuer ça tous les jours, ça vous empêche de vous libérer complètement.
Oui.
Il est temps de prendre soin de vous maintenant, de vivre vraiment pour vous.
Elle ne pouvait plus se coiffer, donc c'est moi qui l'ai coiffée, mais il fallait lui faire un chignon, crêper les cheveux devant, faire un chignon, enfin bon, je faisais ce que je pouvais.
Vous étiez à sa disposition, finalement.
Absolument. Et un jour, le maire et sa femme nous avaient annoncé leur visite, alors je me suis appliquée à bien la coiffer, puis je l'ai emmenée dans son fauteuil, près du feu de cheminée. Quand ils sont arrivés, elle avait tout défait et elle leur a dit « Ma fille ne m'a pas coiffée ».
Ah oui, là, on frôle la perversité, là, quand même. Hein.
Et c'est pour ça que je cherche toujours à comprendre. Mais...
Écoutez, elle est partie vers autre chose. Laissez-la où elle est. Et vous, surtout, profitez maintenant vraiment d'être libre, de penser à vous. Pratiquez ce qu'on appelle l'égoïsme sain, hein. Il est temps.
Oui.
Faites-vous du bien, vous faites des choses qui vous font plaisir à vous.
Oui, c'est ce que j'essaie de faire. Je vis à la campagne, j'aime beaucoup les fleurs, les animaux. Je dis toujours, la nature me console de tout.
Oh, comme je vous comprends. Prenez vraiment le recul, un recul sain par rapport à tout ça maintenant, c'est terminé. Si vraiment vous en avez besoin, cherchez à trouver une thérapeute qui vous prendrait par téléphone.
Oui.
Et si vous vous sentez assez forte pour vous en passer, tournez simplement la page. Donc voilà, c'est fini, c'est terminé. 106 ans, ça a duré longtemps quand même. Hein. Ça fait long.
Mais oui, c'est pour ça que je me dis, elle avait tout de même le temps de me dire un mot. Je n'ai eu un mot gentil ou un geste affectueux.
Elle n'en a pas été capable, Alice. Elle n'en a pas été capable, c'est tout. Il va être temps de passer à autre chose pour vous maintenant, vraiment. C'est son histoire, elle partira avec, c'est comme ça. Quelquefois, il y a des combats qu'il faut arrêter de mener pour aller mieux, vous savez. Et je vais devoir vous quitter parce qu'il est presque, il est presque 1h du matin, déjà, le temps passe très vite.
Oui.
Promettez-moi de penser à vous, s'il vous plaît, maintenant.
Ben, je vais essayer, mais je vous dis...
Tournez cette page et si vous n'y arrivez pas seule, faites-vous accompagner.
Oui.
D'accord ?
Oui.
Est-ce que je peux vous embrasser très fort, Alice ?
Oui, oui. Moi aussi, je vous embrasse. Merci.
Passez une bonne nuit.
Merci.
La Libre Antenne se termine en douceur. Il est presque 1h du matin. Merci pour vos témoignages. Merci pour votre présence. Demain soir, c'est Olivier Delacroix que vous retrouverez à partir de 22h30. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à partir de 23h, comme chaque vendredi. D'ici là, nous restons en contact sur ma page Facebook Sabine Marin, sur laquelle je partage mes phrases du jour et plein d'autres choses avec vous. Et justement, je termine avec ma phrase du jour. La colère... C'est de la tristesse qui n'a pas su par où partir depuis trop longtemps. Passez une très belle nuit et à vendredi prochain.